RCF.
François-Guillaume Laurin, après l'Ardèche et l'Argonne, on va en Corse. On suit un peu le parcours que vous proposez dans votre livre avec un lieu assez improbable. Une espèce de château des Tuileries, c'est pas une espèce d'ailleurs, c'est une réplique quasi identique du château des Tuileries en Corse, perdu dans la montagne.
C'est plus qu'une réplique puisque c'est les pierres.
C'est les pierres même du château.
C'est les pierres des Tuileries, c'est pas toutes les Tuileries, c'est une partie des Tuileries. Oui, c'est une histoire dont j'avais entendu parler et là aussi j'avais envie d'aller au-dessus d'Ajaccio, au château de la Punta, dans le maquis, un peu crapahuté, puisque une route très chaotique y mène pendant 10 kilomètres. On le voit de l'aéroport d'Ajaccio, il domine la montagne. Alors, on va raconter un peu l'histoire, parce que c'est une longue histoire, c'est Tuileries. Donc, rappelez simplement que elles ont été brûlées pendant la Commune, que pendant 10 ans, on ne savait pas quoi faire de ces ruines, que la Troisième République se pose la question. Ce sont les ruines les plus symboliques qui soient, puisqu'elles incarnent des siècles de l'histoire de France, royale et puis impériale. C'est le dernier occupant des Tuileries, c'est Napoléon III, qui vient d'être abattu, son régime. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il y a les pros et les contre. Et simplement, le temps passe et on peut les sauver, on peut les conserver. L'incendie n'a pas endommagé de manière irrémédiable le château.
Mais on n'arrive pas à se décider et il est urgent de ne rien faire, dites-vous.
Voilà, 10 ans se passent et là, la Troisième République dit « Non, finalement, ça s'est encore dégradé, donc voyant l'état de dégradation, use de ce prétexte pour en fait dire on vend tout, on détruit tout. » Il y a une grande vente aux enchères. C'est confié à un entrepreneur en démolition qui a ordre de débarrasser le centre de Paris de toutes ces pierres immenses. Et c'est la curée, là. Tout le monde veut un peu son morceau. Donc ça part chez des particuliers riches, enfin qui vont à un conservatoire. Il y a des marbres qui vont chez les abonnés du Figaro. Il y a des capitales étrangères. Il y en a des bouts à Berlin. Il y en a à Quito, en Équateur. Et puis, il y a une famille, lors de la vente aux enchères, qui remporte, on va dire, le gros lot. C'est la famille Pozzo di Borgo. Donc, c'est la grande famille corse avec la famille Bonaparte. Sauf que leur destin depuis la fin du XVIIIe, c'est vraiment le destin opposé au Bonaparte. Charles Pozzo di Borgo était un compagnon de classe de Bonaparte, mais après 1793, il choisit le parti de Paoli, le fondateur de la Corse indépendante, et des Anglais. C'est le royaume anglo-corse, donc on connaît peu, 1792-94. Bonaparte fuit la Corse avec sa famille en 93, et là c'est le divorce total. Pozzo di Borgo devient le traître. C'est Napoléon qui gagne l'histoire jusqu'en 1815. Et Pozzo di Borgo devient le conseiller du tsar. Il arrive à Paris en 1814 à côté du tsar. Donc c'est double traître par rapport à la France. Donc il y a cette inimitié très forte entre les deux familles. Napoléon III, c'est un Bonaparte. Et il y a aussi une promesse dans la famille Pozzo di Borgo. Le village Pozzo di Borgo a été détruit depuis longtemps, depuis le XVIe siècle. Et le patriarche, avant de mourir, fait promettre à ses descendants de rebâtir le village. Et là, ils y voient l'occasion de faire coup double, en fait. Respecter la promesse du patriarche en 1882. Et puis acquérir le château de l'autre, on va dire. L'autre avec un grand A. Ce sont les Bonaparte. Et ils achètent l'équivalent, en fait, de 2 grands pavillons. Simplement, les pierres sont démontées. Hein. Tout est cassé. Et donc, tout est pièce par pièce.
Alors, c'est ça qui est absolument hallucinant. Ouais. C'est que chaque pierre est démontée et transportée.
Transportée par train, d'abord, jusqu'à Marseille. Et puis ensuite, par bateau, évidemment, jusqu'à Ajaccio. Et puis ensuite, donc, étiquetée, mise en caisse. Et puis après, il faut les remonter là-haut. Donc, il faut d'abord construire une route. 10 km dans le maquis, c'est le grand chantier de la Corse et on rebâtit donc cette bâtisse. Les Pozzo di Borgo, c'est une grande famille aristocrate. Ils ont des milliers et des milliers d'hectares. Ils sont les plus grands propriétaires terriens de Corse. Ils font beaucoup pour le développement de la Corse à l'époque.
Et pour la petite histoire, Pozzo di Borgo, évidemment, ça dit quelque chose à tout le monde.
Hein. Oui, parce que... Alors moi, j'ai interviewé... Je suis allé visiter les lieux avec le conservateur du musée Fesch, mais j'ai aussi interviewé le descendant, le patriarche. Ils sont quelques frères. Là, c'est Régnier qui est l'aîné, mais son petit frère est très connu, c'est Filippo di Borgo, c'est l'auteur du livre Le Second Souffle, qui a donné lieu au film Intouchable.
Donc c'est cette famille-là.
C'est cette famille-là. Le château n'est jamais vraiment habité parce que, vous avez compris, il est loin de tout.
C'est pour ça que vous parlez de château hanté, de maison hantée.
Oui, parce qu'en plus, ce Pozzo di Borgo, à la fin du 19e siècle, il y a une jeune femme qui tombe enceinte plusieurs fois, mais à chaque fois qu'elle accouche, le temps, vous imaginez, pour arriver jusqu'à la maternité, à Ajaccio, et elle perd un enfant. Et donc, il décide de ne plus l'habiter, de retourner en ville. Et donc, il se délabre. Lors de la renaissance corse culturelle de l'après-guerre des années 60-70, le nationaliste, il y a une figure de la famille qui va le faire revivre. C'est un peu le centre culturel, si vous voulez, on reçoit. C'est plus un lieu de réception.
Mais il ressemble à quoi, ce château ?
Oh, un château du 19e siècle, assez massif. Mais là, aujourd'hui, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il a rebrûlé. En 1978, il y a un incendie, comme il y en a souvent en Corse, un incendie de maquis, puisqu'il est au milieu du maquis. Hein,
avec des chèvres autour.
Alors là, aujourd'hui, moi, quand j'y suis allé avec M. Perfettini, on est accueilli parce que celui qui est vaguement chargé de jeter un coup d'œil sur surveiller la bâtisse est berger. Donc en fait, il y a un grand jardin et puis il y a toutes les terres autour et il est fait paître. Donc on est accueilli par les chèvres. Mais depuis 78, vous imaginez. En plus, il est placé en hauteur face au courant aérien et le sel, l'air marin, donc l'érosion est très très forte. Vous imaginez, en 36 ans, 7 ans, il a le temps de s'être rouillé, il est vide.
Et... Mais il appartient toujours à la même famille.
Non, la famille l'a vendu parce qu'il ne pouvait pas assurer l'entretien. Le conseil général l'a racheté. Et là aussi, il est urgent de ne rien faire. Et l'histoire se répète. Comme s'il y avait une malédiction sur ces pierres qui, je rappelle, sont nées de la volonté de Catherine de Médicis, qui elle-même n'avait pas pu le voir fini. C'est aussi toute cette mémoire des pierres. Les Tuileries ont eu du mal à être finies comme le Louvre. Et donc voilà, c'est cette histoire que je voulais raconter.
Quand on dit si les pierres pouvaient parler, elles nous raconteraient des tas de choses. Qu'est-ce que ça raconterait ?
Ah bah,
vous parlez de Catherine de Médicis, on va pas refaire toute l'histoire. Mais
on pourrait parler du grand carrousel, la grande fête donnée par Louis XIV en 1661, qui est la première grande fête du Roi Soleil et qui va lui donner l'idée de toutes les fêtes ensuite à Versailles. On pourrait parler, hier on parlait de Louis XVI, de toutes les scènes révolutionnaires en 1792, l'invasion du peuple qui veut s'emparer de Louis XVI et qui lui demande de mettre un bonnet phrygien en 1792 et Louis XVI qui refuse de faire tirer les Suisses contre la foule qui aurait là aussi peut-être pu le sauver. C'est le peuple des révolutions de 1830-1848 qui rentre dans les Tuileries, qui envahit, qui saccage. C'est les grandes scènes que décrit Flaubert dans l'éducation sentimentale. C'est l'impératrice Eugénie qui s'enfuit par un corridor en 1870. Avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est pas forcément des scènes très heureuses d'ailleurs. C'est toujours finalement, je vous ai cité beaucoup, à part la fête du carrousel, c'est souvent des fêtes voilà, où la royauté elle-même est en danger, comme si finalement ça annonçait déjà la fin dans ces pierres. C'est Napoléon Bonaparte qui arrive dans ces lieux, qui les trouve... Comme il dit, on a retenu la phrase qui dit « c'est sinistre comme la grandeur ».
Donc c'est tout dire.
C'est tout dire. C'est aussi cet incroyable incendie provoqué et déclaré par quelqu'un qui s'appelle Bergeret, qui s'installe dans ces lieux en mars 71 et qui va faire un grand feu de joie, qui est une sorte de Néron du peuple. Qui va faire un grand feu de joie avec les barils de poudre.
1871, hein, c'est pas le même incendie que celui que vous évoquiez tout à l'heure.
Non, non, 1871, pendant la fin de la Commune, qui va faire un grand feu de joie qui avec ses hommes va ripailler, va boire en regardant le feu, dévorer ses pierres.
La suite de l'histoire.
Comment les Corses eux-mêmes considèrent-ils cette bâtisse ? Est-ce que c'est une anomalie dans leur paysage ?
C'est presque une greffe qui n'a pas pris, en fait. C'est une occasion manquée. C'est des pierres qui viennent du continent. Je crois qu'aussi chez les Pozzo di Borgo, il y avait le souci de rattacher l'histoire de la Corse à l'histoire de la France. C'est-à-dire, voilà, nous rendons service, nous avons sauvé finalement ces pierres qui ont fait la France, et nous, simplement, nous les mettons en Corse. Donc nous établissons un lien par l'architecture entre l'île et le continent. Et puis, le sort, l'histoire n'en a pas voulu ainsi. Je crois qu'il y a beaucoup de projets qui ont été échafaudés autour de ces pierres. Aucun n'a abouti, c'est bien qu'il y a un manque de volonté. Là aussi, l'histoire est passée, l'occasion est manquée, et c'est peut-être un résumé aussi des difficultés, des malentendus et des complications entre l'île et la France.
Merci beaucoup François-Guillaume Laurent. À demain.